17h à Nouakchott, 20h à Tananarive. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles présidentielles en Tunisie. L'instant chargé des élections dans le pays va confirmer officiellement dans les 48 heures que le second tour de la présidentielle se déroulera bien le 13 octobre. Ce tribunal administratif a annoncé ce lundi avoir rejeté en appel 5 recours contre les résultats du premier tour, confirmant la victoire de l'universitaire Kais Saied en première place du scrutin et de l'homme d'affaires Nabil Karoui qui a fini deuxième. La décision du tribunal ouvre la voie à une proclamation des résultats définitifs et du calendrier électoral dans les 48 heures, a souligné Asna Ben Slimane, une responsable de l'instance électorale. La campagne commencera aussitôt les résultats proclamés. Une décision est attendue également mercredi concernant l'éventuelle libération de M. Karoui, qui est soupçonné de blanchiment d'argent et de fraude fiscale et est incarcéré depuis le 23 août. S'il n'est pas libéré afin de faire campagne, il est possible que l'intégralité du processus électoral soit contestée, a averti le président de cette instance, Nabil Bafoun. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant au Mali, deux postes de l'armée proches de la frontière avec le Burkina Faso ont été attaqués ce lundi par de présumés djihadistes. C'est ce qu'ont annoncé les FAMA, les forces armées maliennes, sans donner d'autres précisions, mais des sources locales font état de deux civils tués lors d'une des attaques. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les postes des forces armées maliennes de Mondoro et de Boulkessi ont été attaqués respectivement à 1h et 4h30 minutes selon la page officielle des FAMA. Au moins, deux civils ont été tués à Mondoro, selon des sources locales. Dans la nuit, les djihadistes armés sont venus à Mondoro. Ils sont allés dans le PC, le poste de commandement du camp, situé à l'est. Ils ont tiré. L'armée malienne a reculé. Les tirs des djihadistes ont tué deux civils et en ont blessé trois, explique un conseiller communal de Mondoro. Le bilan de l'attaque est de deux morts et de trois blessés par balle, de deux véhicules pick-up avec des munitions, deux chameaux et 12 vaches ont été emportés par les djihadistes, a confirmé une source au niveau du centre de santé communautaire de la ville. Aucun bilan n'est encore disponible à la mi-journée pour l'attaque contre le camp de Boulkessi, qui a été la cible de tirs d'obus selon un habitant. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, début ce lundi du grand dialogue national voulu par le président Paul Biya pour tenter de mettre un terme au conflit meurtrier entre Yaoundé et des séparatistes anglophones dans l'Ouest. Selon les observateurs, ses chances d'aboutir sont minces en raison de l'absence des principaux leaders sécessionnistes. Mais les participants, en particulier les anglophones modérés présents à la réunion, ne perdent pas espoir. À preuve, l'optimisme affiché par John Fundi, président du Social Democratic Front, SDF, premier parti d'opposition à l'Assemblée, et aussi le cardinal Christian Toumi, archevêque de Douala, la grande métropole économique du pays. Mais John Fundi n'a pas le soutien des séparatistes et il a d'ailleurs été enlevé à deux reprises par les sécessionnistes dans le nord-ouest anglophone en avril et en juin. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme alors que d'autres réclament la partition du pays. Deux scénarios rejetés catégoriquement par le président Biya. La plupart des dirigeants indépendantistes boycottant le dialogue se disent prêts à discuter avec le gouvernement camerounais, mais ils veulent que les négociations se déroulent à l'étranger en présence de médiateurs internationaux et que les termes de la sécession soient le principal point à l'ordre du jour. Mise en garde du chef de la diplomatie du Burundi, Ezekiel Nibigira, à l'ONU contre toute velléité d'intervenir dans l'élection présidentielle de 2020 dans son pays. Le processus électoral est une affaire interne et en cas d'accompagnement international, il ne doit pas donner droit à des actes d'interférence, a souligné le ministre burundais des Affaires étrangères devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Selon M. Nibigira, le Burundi considérera comme une atteinte à sa souveraineté nationale et, je cite, « toute tentative de vouloir créer un nouveau rôle ou de redéfinir un rôle existant aux Nations Unies sous impulsion de certains États pour s'occuper des élections au Burundi à la place des Burundais ». Fin de citation.
Nanit Kalani pour la Minute Écho.
Selon l'agence Reuters, le PDG de la société Eni, Claudio Descalzi, fait l'objet d'une enquête sur un conflit d'intérêts dans le cadre des transactions au Congo. Il n'avait pas révélé que son épouse était derrière Petroservice. Selon les procureurs à Brazzaville, cette société a bénéficié de contrats de près de 105 millions de dollars avec Eni de 2012 à 2017. Le PDG d'Eni est aussi l'un des accusés dans un procès pour corruption au Nigeria pour un achat de 1,13 milliard de dollars d'un champ pétrolier. La société minière canadienne Bonro Corporation a suspendu ses opérations sur plusieurs de ses sites en RDC au début du mois à cause d'un cas de force majeure. Elle affirme que de graves problèmes de sécurité persistent malgré la libération des employés pris en otage en juillet par des rebelles. Pour terminer, le régulateur des télécommunications de la Zambie a annulé les licences de réseau et de services émises à Vodafone Zambia qui devra cesser ses activités à partir du 20 octobre. L'entreprise a cessé de remplir les conditions d'éligibilité technique et financière. En 2016, Vodafone a autorisé Afrimax, un fournisseur de services de télécommunications, à offrir à ses clients des services de données 4G à haut débit sous sa marque Vodafone Zambia. Afrimax n'a pas pu remplir ses engagements.
Musique et info pour chacun, VOA Afrique.
I go give you all my love, pata pata, 'cause I define.